pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Enivrons-nous de livres aujourd'hui avec Curiosity. Salut à tous, salut les curieux, salut les curieuses. Enivrons-nous de spontanéité et continuons de questionner le monde pour en faire ressortir toutes ces belles nuances. Aujourd'hui, je suis avec vous pour une heure d'échange avec l'auteur d'un livre. Que nous raconte ce livre ce mois-ci ? Eh bien, c'est l'histoire, la biographie d'un certain Ivan Illich. Ouh là là, mais qui c'est celui-là ? Si vous ne le connaissez pas encore, pour ma part, je l'ai croisé en fac de sociologie, dans mes cours d'écologie politique. Et aujourd'hui, on va vous en parler grâce à Jean-Michel Djian. Jean-Michel Djian, bonjour, bienvenue dans Curiosity, émission de Radio Primitive, radio libre et indépendante. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Alors en 2020, vous sortez Ivan Illich, L'homme qui a libéré l'avenir aux éditions du Seuil. Moi, ma première question pour commencer cet entretien, ce serait qu'est-ce qui vous a mis sur la route d'Ivan Illich ?
Écoutez, j'ai eu la chance inouïe de le rencontrer. Quand je suis arrivé au Monde, j'étais rédacteur en chef du Monde de l'éducation. C'était en 95, je crois, que Colombani m'avait nommé. Et quand on parle d'éducation, on parle un peu d'Illich, puisque c'est quand même lui qui a mis le pavé dans la mare en sortant ce livre, La société sans école. Et donc, je me mets à traiter de ce sujet, mais en me disant, le mieux, c'est peut-être de l'interviewer. Et là, impossible d'atteindre, à l'époque, il n'y avait pas de portable, et Illich habitait à l'époque à Cuernavaca, au Mexique. Il refusait tous les interviews depuis très longtemps, mais bon, je suis un peu têtu, je suis breton, et puis surtout, j'ai la chance de connaître Edgar Morin. Et du coup, Edgar Morin, je savais qu'il y avait un lien entre les deux, et je lui demande, est-ce que tu peux m'aider à prendre un contact avec Illich. Le surlendemain, il m'appelle, il me dit « Ok, il est prêt à accepter l'interview, il faut que tu ailles au Mexique, à Cuernavaca, et il accepte pour le Monde, pas de problème. » Donc j'étais un peu étonné, et en arrivant, quand je le rencontre, il me dit « Ben oui, c'est le seul journal avec lequel j'ai gardé un rapport de lecture, c'est le Monde de l'éducation. » Donc voilà, donc il lisait mes éditos, voilà, c'est comme ça. Donc le contact s'est passé de cette manière, et pour moi c'est un mythe vivant, c'est encore un mythe vivant, il est mort en 2002. Mais quand je l'ai rencontré en 1999, donc 4 ans après mon arrivée à la tête du Monde de l'éducation, c'était un homme qui était atteint d'une maladie assez rare, qui était fatigué, mais qui était sur le plan, j'allais dire, cérébral, de l'intelligence, il était d'une vivacité absolument étonnante. C'était le même bonhomme que celui qu'on entendait 40 ans plus tôt.
Et donc, j'ai un peu éclipsé votre présentation, vous, en tant que journaliste, enfin, on peut présenter aussi à nos auditeurs et auditrices qui vous êtes. Donc à la base, vous êtes journaliste, c'est ça ? Vous êtes
à la base, vraiment, je suis professeur d'université, mais j'ai quitté l'enseignement universitaire pour devenir journaliste parce que j'adorais écrire.
D'accord.
Mais je suis rentré par la petite porte en faisant des chroniques et puis progressivement, voilà, je suis arrivé au Monde et puis ensuite je suis passé à France Culture.
D'accord. Et donc, cette biographie de Ivan Illich en 2020, elle est venue un peu au fur et à mesure, enfin, comme vous aviez déjà en tête d'écrire sur sa vie avant.
Bah écoutez, moi, je fais de partie. Je suis dans une génération où ne pas connaître Illich, c'est un problème. Parce que quand on est un peu à gauche et qu'on est curieux du monde contemporain, il est évident qu'il y a quelques grands personnages qui font partie du paysage intellectuel et Illich en fait partie. Donc, la chance que j'ai dit, c'est de connaître et d'avoir lu Illich, tout Illich d'ailleurs. D'essayer de le contacter, de le voir, de le rencontrer, ce que j'ai fait.
Et donc c'est vrai que son œuvre est assez conséquente. Hein. Il a écrit en 1970 Une société sans école, 1973, La convivialité. 1973, également, Énergie et équité. Némésis médical, en 1974. Et encore, enfin, à la base, finalement, de son œuvre, 1969, il écrit Libérer l'avenir. Et le titre de cette biographie aujourd'hui, c'est, dont on va parler, c'est Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir. C'est une volonté de votre part aussi de rappeler un peu l'ouvrage qui a...
Ça résume le personnage, ouais. Disons. Vous voyez, mon éditeur, c'est lui qui a eu l'idée, je crois, d'ailleurs, c'est pas moi. Il a dit pourquoi pas appeler le livre Libérer l'avenir, tout simplement parce que nous sommes, remettre en contexte les années 70, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est les utopies participaient de l'intérêt de vivre ensemble. La politique s'inspirait des intellectuels. C'est la dernière grande période où les intellectuels ont quelque influence. Donc Illich en fait partie. Même les plus marginaux étaient toujours dans une configuration où on allait les consulter. On s'y référait. Et voilà, mon chantier, c'était peut-être de continuer un peu de creuser ce sillon-là.
D'accord. Et dans le livre, hein, justement, vous rappelez qu'à un moment donné, il répond à une interview de David Cayley où il répond à Radio-Canada, « L'idée du futur dévore le présent, cet unique moment où le paradis puisse nous advenir. Prévoir, c'est vouloir forcer l'avenir. Tandis que l'espoir étend le présent en suscitant l'avenir. » Et par cette réflexion, en fait, il montre bien aussi justement l'idée qu'il veut se situer dans le présent et plutôt que se projeter dans un avenir trop lointain, peut-être.
Vous parlez d'Illich, là.
Oui, d'Illich, bien sûr.
Voilà. Illich, il faut le remettre en contexte, c'est un Autrichien qui a fait des études de théologie et de philo, mais qui était destiné, qui d'ailleurs a assumé sa destination, qui est d'être évêque. Donc vous voyez, c'est quand même un personnage qui est un gauchiste parfait, mais qui est quand même évêque, qui a toujours été en opposition évidemment avec le pape, mais qui a participé, au rituel qu'implique l'Église catholique.
Il a toujours été en opposition
Non, pas toujours, mais dès qu'il a commencé à œuvrer en tant qu'ecclésiastique, en tant que prélat, notamment dans les quartiers portoricains de New York, où il a vraiment mis les mains dans le cambouis, aidé à l'émancipation des pauvres, où il consacrait sa vie à évangéliser, disons le mot. Non, il n'avait pas de doute sur l'intérêt de la Bible, des évangiles à civiliser le monde. La foi, comme Ernest Renan un siècle plus tard. Voilà, ce sont des gens qui sont habités par la foi. Mais Illich avait quelque chose de plus, une conscience politique très aiguë et peut-être même des pulsions libertaires suffisamment exacerbées pour réinterroger en permanence ce qu'il fait pratiquement à l'endroit des pauvres, réinterroger les Écritures, réinterroger l'institution qui fabrique le monde d'aujourd'hui. Et l'institution, c'est l'Église catholique qui avait encore un certain poids à l'époque. C'était Paul VI qui était pape. Et même si Paul VI avait une admiration sans bande pour l'intellect d'Illich, il faut avouer que la critique permanente qu'Illich faisait à l'endroit de la société, évidemment, griffait l'action catholique. Et tous les livres qu'il a pu sortir et publier font état de son questionnement. Voilà, donc c'est pour ça que le personnage est assez étonnant. On peut rajouter qu'il est tellement charismatique, voire un gourou, certains diraient un gourou, qu'au fond, sa marginalisation progressive au sein de l'Église, elle est liée au rapport de force que lui-même a installé, c'est-à-dire que tous les grands intellectuels de gauche consultaient, quand il était encore aux États-Unis, Illich, parce qu'il écrivait, il pensait, il avait une vision du monde, voilà. Et donc, tout ce phénomène-là...
Il savait qu'il était aussi considéré lui-même comme un gourou
Non, franchement, il n'est pas tombé dans ce piège, c'est des limites, hein, mais... quand il a décidé donc d'installer à Cuernavaca, au Mexique,
ouais,
une espèce de centre d'études.
Donc pour rappeler à nos auditeurs et auditrices, en fait déjà, il est ordonné prêtre donc en mars 1951 et au printemps il va finir ses enfin terminer poursuivre ses études aux États-Unis, à New York. Donc où là, il va rencontrer la population immigrée aux États-Unis. Et à l'époque, il commence donc à... Il effectue des prêches aussi aux États-Unis à ce moment-là, où il va rencontrer l'extrême pauvreté.
Ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il est, il s'investit tout de suite, très rapidement, dans l'action. Il ne passe pas son temps à faire des messes dans la chapelle du coin. Mm-mm. Bon, il les fait, mais ce qui l'intéresse, c'est que les portoricains aient, par exemple, une instruction suffisante pour pouvoir... Ouais. S'opposer à une administration, déjà, vous voyez, une administration qui passait sa vie à essayer de les faire taire. Voilà, c'était ça son ambition. Elle était très légitime sur le plan humain. Est-ce qu'elle relevait de l'Église ? J'en sais rien. Mais lui a choisi l'Église pour actionner ce temps fort. Voilà.
Et donc au Mexique, il va s'en éloigner au Mexique ?
Ben évidemment, puisque là, il s'aperçoit très vite, quand il est nommé ensuite évêque à Porto Rico, entre le travail qu'il fait à New York dans les quartiers portoricains et l'île de Porto Rico, où il est évêque lui-même, où il continue son travail de sape vis-à-vis du capitalisme, vis-à-vis du progrès matériel. Il a vraiment un grand discours libertaire, un discours anticapitaliste féroce, qui ne s'adapte pas forcément aux préceptes du Vatican. Donc, c'est très, très difficile. Là, il comprend son malheur et il décide d'aller au Mexique. C'est là qu'il part au Mexique. C'est là qu'il crée à Cuernavaca, grâce à un évêque beaucoup plus complice, il crée ce lieu assez fantastique où des personnages comme, je sais pas moi, comme André Gors, Donel Der Camara, Michel Rocard. On oublie aussi que Hannah Arendt ou Hans Jonas sont des philosophes maintenant très connus, reconnus, mais ils ont participé au séminaire d'Illich. C'était vraiment un lieu qui n'existe. Il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui. C'est un lieu où on venait apprendre, on venait remettre en cause l'acquis. On verrait aussi bien Marx que les théories de Raymond Aron, tout y passait. Voilà. Mm-hmm. Herbert Marcuse, qui est le grand sociologue américain, venait à Cuernavaca.
Oui, de nombreux penseurs se sont
alimentés, nourris intellectuellement avec ce bonhomme. Alors, c'était assez autocrate, hein. Il n'y avait que lui qui tenait... beaucoup d'intervenants, mais quand on parlait de charisme, on parlait de gourou, là, je parlerai plutôt d'incarnation. C'est quelqu'un qui incarnait son lieu, qui incarnait l'idée qu'il fallait remettre tranquillement, pacifiquement en cause toutes les institutions établies, mais pas d'une manière révolutionnaire, d'une manière méthodique, pensée, un peu comme ferait Edgar Morin aujourd'hui avec la pensée complexe. C'est-à-dire qu'il essaye de démonter le système. Et quand il écrit ou il sort son Némésis médical, c'est quand même la stupéfaction. Il arrive grâce à des personnages éloquents, très connus à l'extérieur, comme Jean-Pierre Dupuis, par exemple, qui était professeur à Stanford, à démonter les mécanismes qui font que l'hôpital, je dis bien l'hôpital, le système de santé est pervers. C'est lui qui découvre le premier, c'est important de le savoir, l'existence de maladies nosocomiales dans les hôpitaux, c'est-à-dire des maladies qui sont provoquées par l'extrême férocité du système. C'est-à-dire qu'on est malade par le système dans lequel on vient se soigner, ce qui est quand même un paradoxe. On connaît maintenant le taux de décès qui existe dans les hôpitaux qui sont liés aux maladies nosocomiales, mais personne n'avait, à l'époque, essayé de comprendre pourquoi l'hôpital qui soigne engendre lui-même des maladies. Voilà. Donc c'est une capacité de vision du monde qu'il avait, une capacité à provoquer les intellectuels et les politiques sur l'état de responsabilité qu'ils ont devant des phénomènes. C'est valable pour l'école aussi. Pas seulement pour l'hôpital, mais pour l'école, pour les transports. Et donc, c'est un écologiste avant l'heure. On dirait certains, c'est un personnage qui anticipe la posture de collapsologue, c'est-à-dire de considérer que tout va se briser par excès d'économie, excès de capital, excès de comportement individualiste, d'égoïsme, et ainsi de suite, ce qu'on vit aujourd'hui.
Et il était vu un peu comme un prophète de malheur aussi, vous dites.
Un prophète de malheur, on pourrait dire ça. Lui, il dirait un prophète de bonheur, parce qu'il... Vous avez un peu mentionné son nom tout à l'heure. Ça, une de ses caractéristiques, c'est qu'il aimait bien jouir de la vie. C'est quelqu'un qui aimait jouir de la vie, d'écouter de la grande musique, qui aimait apprendre à converser. Une chose qu'on a totalement perdue de vue aujourd'hui. Personne ne sait ce que c'est que la conversation. Les gens parlent, l'autre n'écoute pas, l'autre parle, l'autre n'écoute pas, et ainsi de suite. Voilà, donc la conversation, c'est un art. C'est un art du XVIIe siècle, donc vous voyez, c'est très ancien. Et au fond, au XVIIIe, au XIXe, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on conversait. Mais c'est pourtant là que les idées se fixaient. C'est comme ça que les utopistes ont gagné la partie pour essayer de donner de l'espoir aux habitants, aux populations, devant l'intérêt de la vie. Voilà, il y a toute ce partage-là qu'Illich incarnait. Alors, il y avait un statut de curé, d'évêque, mais en réalité, sa mission, c'était une mission messianique, c'est-à-dire que c'était l'idée quand même d'être heureux sur Terre, de vivre au présent et de considérer l'avenir comme un terrain de jeu où les utopies se confondent avec le plaisir d'être ensemble, avec la fraternité, avec la liberté. Voilà, et c'est quand même des thèmes très républicains, tout ça.
Très bien. Et sur ces bonnes paroles, on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter A Day in the Life des Beatles. C'est une proposition de votre part. C'est parti. Retour sur Radio Primitive avec Jean-Michel Dian. Donc on en parlait à l'instant de ce cher Ivan Illich. Il crée le SIDOC donc en 1965 au Mexique à Cuernavaca. C'est un laboratoire d'idées qui va durer pendant 10 ans, qui va durer 10 ans. Hein. C'est énorme. Est-ce que c'est vraiment là qu'il va forger ses idées, les idées qu'il va transcrire après dans son œuvre, dans ses livres?
Globalement, c'est le terreau fertile, c'est le creuset. C'est là où où ils ramassent les idées des autres aussi, mais avec leur accord, hein, qu'ils les mélangent, qu'ils spéculent. Et libérer l'avenir, c'est quand même le point de départ d'un projet processus où on voit l'école, la société sans école surgir, on voit Némésis médical surgir, la question des transports urbains qui est au fond une dénonciation de la manière dont les villes et les métropoles s'organisent et qui organisent surtout la défaite des citoyens. Voilà, donc c'est très gauchiste, c'est très extrémiste son affaire, mais au fond, c'est cohérent. Dans son système à lui, c'est cohérent. La preuve, c'est que la gauche française, je dis la gauche française d'abord, la gauche suédoise aussi, mais à l'époque où Olof Palme n'était pas encore aux affaires, mais en France, les idées d'Illich, elles faisaient la une du Nouvel Observateur.
Oui, c'est ça.
Elles faisaient la une du Monde.
Je voulais vous demander justement à quel moment les idées d'Illich ont fait une percée en Europe, en France, plus particulièrement.
Après 68, voilà, comme d'autres idées d'ailleurs, mais après 68, 70, 71, Illich était incontournable. Hein. Il faisait la une d'Harakiri, même, il faisait de Charlie Hebdo, enfin, les équivalents des journaux qui avaient une certaine influence dans la jeunesse. Et le milieu hippie dont on parle plus maintenant, on parle des babacool, mais à l'époque c'était des hippies, c'était des gens qui se baladaient dans la... Tout ça, ce sont des gens très inspirés par Ivan Illich. Et quand on dit que Illich revient depuis quelques années, c'est pas tant ses idées que la manière dont il lui-même concevait la vie. Voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne l'imagine. Mais la réalité, c'est que si vous relisez ses livres aujourd'hui, on est scié par ses prédictions. C'est-à-dire que sur l'école, il n'y a pas un mot à changer de ce qu'il écrivait en 71.
Alors justement, oui, sur Une société sans école, donc on est en 1971, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc là, c'est, enfin déjà avec Némésis médical, il met en avant son concept de contre-productivité.
C'est les théories de Simon Kaur, de Léopold Kaur, un autre Américain, un autre philosophe, qui dit plus c'est gros, moins ça marche.
Mm-hmm. C'est le small is beautiful, c'est ça.
C'est small is beautiful, ouais. Donc le principe. Vous voyez, pour résumer une philosophie, c'est assez génial. Vous employez trois mots anglais, ça marche. Small is beautiful. Tout ce qui est petit marche mieux. Pourquoi on en revient au circuit court quand on parle de commerce aujourd'hui ? Pourquoi on essaie de créer dans l'économie équitable des petits centres de profit qui sont réincarnés par des coopératives ? C'est tout simplement parce que dès que quelque chose grossit, ça ne marche pas. Or, les systèmes scolaires dans le monde entier sont identiques. C'est un mammouth, comme disait un certain Allègre, et qui fonctionne avec une pyramide dans laquelle un certain nombre d'enseignants et d'élèves fonctionnent en circuit fermé. Et la réalité, c'est que cette institution coûte énormément d'argent et qu'elle ne produit pas à la hauteur de ce qu'elle coûte. Voilà. Il y a 20 ans, quand on disait ça, on passait pour un réactionnaire. Aujourd'hui, non. Maintenant, les gens comprennent quand même que plus on injecte de l'argent quelque part, moins c'est efficace sur le terrain. Donc, il y a bien quelque chose qui coince quelque part. Illich avait mis le doigt là, exactement, en parlant de ceux qui quittent l'école trop tôt, qui considèrent que si l'école est obligatoire, gratuite, aujourd'hui, à peu près partout dans le monde, la réalité, c'est qu'elle est certes obligatoire, mais ne correspond pas nécessairement aux aspirations des élèves. Et que la question de l'autorité est posée par la forme de liberté excessive qu'on accorde aux enfants. Voilà. Il y a tout un mélange très compliqué de valeurs qui se percutent entre elles, mais que l'institution scolaire arrive à capter. Mais au lieu de produire un effet positif, elle produit un effet négatif. Et dans La société sans école, Illich démontre tout simplement que l'école ne réduit pas les inégalités. Et c'est vrai, depuis que l'école existe, elle n'a pas réduit les inégalités. Et aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde, chacun est bien obligé de constater que l'école ne remplit pas, malgré la volonté, le militantisme d'un certain nombre d'enseignants, ne répond pas aux besoins d'insertion et d'épanouissement des enfants, et en particulier des adolescents.
Et justement, à ce titre, en 1967, il écrit « L'opium des écoles a plus de force que celui des églises. À mesure que la société se scolarise, les individus oublient qu'il est possible de vivre sans se sentir inférieur à autrui. » Donc là, il met à mal l'échec scolaire et les inégalités que produit l'école. Et c'est quand même assez c'est fort, quoi.
Bien sûr, c'est fort, c'est courageux surtout de le dire. C'est courageux, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la parole. Peut-être votre génération ne connaît pas ce système idéologique qui est très puissant dans les années 70, et que nous sommes encore dans la guerre froide. Par rapport à notre actualité d'aujourd'hui, ça fait bizarre de dire ça, mais il y avait les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Mmh. Donc il y avait les capitalistes d'un côté et les communistes de l'autre. C'était ça, le système mondial. Et une troisième voie n'était pas possible. Idéologiquement, ça ne marchait pas. Les seuls qui ont tenté d'inverser le côté binaire de la pensée individuelle, ce sont les premiers écologistes. Illich n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Il y en a quelques intellectuels se sont mis à expliquer que nous produisons dans le monde une économie capitaliste qui va contre les idées et contre l'épanouissement des individus. Mais c'est également la même critique qui est valable pour les communistes. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'assez fort dans le discours d'Illich, et lui en veut à l'école, parce que c'est là où la matrice première formate les élèves. Et plein d'élèves ne se sentent pas heureux dans une école. Pourquoi ? Donc, à l'époque, on ne pouvait pas poser cette question. Maintenant, on y arrive un peu, mais c'est lent. Surtout, les dégâts sont faits.
Et donc, il en veut d'abord à l'école, plus, c'est vraiment la base. Et il étudie quand même l'hôpital et les institutions en général, finalement,
oui,
que ce soit l'école, l'hôpital ou toute institution pour lui est vouée in fine à l'échec, finalement.
Oui, quand elle grossit. Hein. Quand l'institution ne grossit pas, mais c'est peu. Malheureusement, la logique de l'institution fait qu'elle grossit, puisque son développement est lié à une croissance de production, qu'elle soit intellectuelle ou matérielle, mais c'est une logique de production. Donc, il faut grossir, il faut du 3% de plus par an, il faut 3%, 5% de personnel en plus. Il y a toujours la gestion des besoins nécessite des moyens, et les moyens, c'est de l'argent. Voilà. C'est pour ça que l'institution, c'est le modèle pour lui qui est contestable.
Et c'est
peut-on
aussi,
s'en passer de l'institution ? Ça, on n'en sait rien.
C'est la logique, serait pas, enfin, vous en parlez aussi dans l'ouvrage qui relate sa vie, c'est la logique de planification aussi qu'il fustige finalement à travers les institutions. La planification de tout en général, finalement, qui crée une possibilité de tout prévoir.
Donc, mais c'est impossible, parce que c'est le principe d'incertitude qui domine, ce n'est pas le principe de certitude. Quelques années après, Edgar Morin l'a peut-être mieux expliqué dans La pensée complexe. C'est-à-dire que, bien sûr, d'ailleurs, on n'utilise plus le plan aujourd'hui, ça n'existe plus. Plus personne n'est capable de savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Est-ce que vous saviez, vous, il y a 3 mois, que le monde aurait été chahuté comme il est chahuté aujourd'hui ? Personne n'aurait imaginé que le président américain s'allie avec le président russe contre l'Europe. Vous voyez, ça, personne ne peut le planifier. Donc, le principe d'incertitude, c'est celui-là qui est le plus compliqué à appréhender. Et lui dit, il faut que la pensée, que l'autonomie, la responsabilité de soi-même joue à plein et prenne sa distance avec les modèles, de telle manière que l'individu, vous, moi, nous soyons en capacité de pouvoir assumer notre propre destin de citoyen, d'être humain sur cette terre, en faisant le mieux possible avec des valeurs partagées. Les grandes valeurs partagées universelles, elles sont assez identifiables. le principe d'avoir une famille, des enfants, le principe de la fraternité. Tout ça, c'est partagé dans le monde entier. Après, se greffe là-dessus pour nourrir toutes ces valeurs, des valeurs qui sont dites idéologiques, dans laquelle les religions ont leur part de responsabilité. Et au fond, c'est ça qui dénonce Illich, c'est l'accaparement des idéologies et des religions sur des valeurs qui appartiennent aux individus et qui les obligent à fonctionner comme des moutons. Voilà, c'est ça qu'il conteste. Lui, il dit qu'il faut se rebeller contre le système, contre les systèmes, pas seulement le système capitaliste, tous les systèmes dogmatiques. D'autres l'ont fait, d'autres l'ont dit, mais lui, quand même, il est évêque, quand même. Vous voyez, c'est comment on peut faire, voilà. C'est pour ça que le personnage lui-même est assez éblouissant, et il est sauvé que par son intellect. Il trouve une stature mondiale par son intellect, pas par le fait qu'il soit curé. De même, Ernest Renan, plus tard, qui lui aussi a fait le séminaire, qui se retrouve avec un cerveau plus gros que la moyenne, qui est capable de comprendre tout et de prévoir encore plus vite, finalement, il est banni par l'Église parce qu'il conteste une doctrine religieuse. Voilà. Donc, les questions que pose Illich et derrière lui un certain nombre d'intellectuels, encore aujourd'hui d'ailleurs avec d'autres intellectuels, c'est l'impression que chaque individu est perdu dans ce monde où ses repères s'étiolent, et que la capacité critique, cet esprit critique que l'école est incapable maintenant de fournir, eh bien, il faut bien le trouver quelque part. Sinon, on est effectivement tous des clones, voire des clowns, et finalement, on ne s'en sort pas. Vous me suivez, là ?
Oui, oui, totalement. Oui. C'est une pensée extrêmement complexe, hein, que celle d'Illich. Moi, ça me fait penser justement à ce qu'il relate dans la société conviviale, où il met en avant justement l'idée d'une société qui donne à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus créative possible, tout en étant de moins en moins aliéné finalement par l'outil. Ça, c'est aussi intéressant parce que c'est vrai que l'outil aussi va être assez important aussi dans sa pensée, la relation de l'homme à l'outil. Et l'idée de s'en émanciper aussi, c'est quelque chose qui semble vraiment important dans sa pensée aussi.
Surtout ce qu'il disait, et qui est valable pour aujourd'hui, pour vos auditeurs, c'est que le combat qu'il a mené pour que l'école retrouve une force vitale, elle n'est pas arrivée, cette force vitale. Or, le monde nécessite un esprit critique. Il faut que les citoyens soient capables de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Or, le règne du complotisme a pris le pouvoir et qu'au fond, on n'arrive pas à trouver le moyen de générer des énergies positives à cause de ça. Et Illich l'avait évoqué dans La société sans école. Il l'a évoqué aussi dans Libérer l'avenir. Mais là, on est dans une époque où se pose vraiment la question de fond. Il avait raison. Il avait raison en disant il faut absolument, de manière révolutionnaire, changer la pensée et disons, développer une écologie de la pensée, une écologie du système pour qu'on retrouve des marges de liberté. Mais on n'en est pas là.
Et il était aussi un peu obnubilé par la question de l'alphabétisation aussi, finalement, et de ce que ça crée aussi comme rapport de pouvoir entre les êtres humains, finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'on en revient au problème de l'école. C'est-à-dire qu'il a tout compris au départ. Il s'est dit, c'est sur l'école, c'est la formation des cerveaux. Mais quand il parlait des outils, c'était effectivement savoir parler, savoir s'exprimer, savoir se défendre contre des administrations, notamment américaines, contre les portoricains à l'époque.
La bureaucratie.
Pour défendre leurs droits, tout simplement leurs droits. Ce n'était pas des questions d'argent, c'est des questions de valeurs et de principes. Et de ça, il faut constater que la réalité, c'est que il s'est aperçu très vite que le monde entier était confronté à cette incapacité des pauvres, on parle bien des pauvres, cette incapacité des pauvres à s'installer dans le système scolaire à égalité avec ceux qui le sont moins pauvres. Mais voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Peut-être était-il naïf, peut-être est-il, j'allais dire, habité trop par l'utopie, mais peut-on lui reprocher ça? C'est bien l'utopie, les grandes idées, c'est intéressant. La fraternité qui se voyait comme le nez sur la figure quand on voit Nietzsche, on sent bien que c'est un personnage qui est même, il a envie d'embrasser tout le monde, il aime tout le monde, il a évidemment des ennemis comme tout le monde, mais on voit bien qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est que les gens soient heureux. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça, et qu'il n'y a pas besoin de parti politique pour ça. Donc c'est un libertaire, utopiste, vraiment habité par un humanisme éclairé. Donc l'humanisme éclairé, c'est son moteur. Il faut que les gens soient éclairés, qu'ils aient un esprit critique, qu'ils se forgent cet esprit à l'école, à l'époque où il s'est dit « l'école sert à ça ». Et il écrit « La société sans école » pour expliquer que même sans école, ce sera pas aussi pire que ce qui va se passer. Donc c'est dur hein, ce qu'il dit, c'est dur. Mais vaut mieux le lire et l'écouter pour comprendre pourquoi.
Il dit d'ailleurs, je relate ce qui est écrit dans votre biographie d'Illich, il était persuadé que l'humanité entière serait peuplée de cyborgs si nous ne prenions pas conscience de notre état de perdition. En réalité, le futur, lui aussi, était aussi anxiogène que le passé le mettait en transe. Il finit par ne plus l'employer en utilisant abondamment un glossaire en devenir, celui des outils informatiques. Mais peut-être avait-il compris du haut de sa sagesse que son enthousiasme à expliquer le monde présent était maintenant en train de se déliter dans l'accélération du temps. À un moment donné, il s'est senti peut-être dépassé aussi par l'évolution des choses ou comment
Il a compris que la dépossession par l'outil technique... la dépossession des outils par la technique allait aliéner ceux qui en étaient les propriétaires. Mais franchement, il a raison. Regardez aujourd'hui l'intelligence artificielle. Si vous prenez une voiture aujourd'hui, personne ne contrôle une bagnole. C'est totalement informatisé. Vous allez chez le garagiste du coin, il ne comprend pas du tout comment ça marche. L'idée, c'était prévisible que la technique allait s'emparer des cerveaux. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle comme si c'était totalement normal. Mais ce n'est pas du tout normal. Ou alors, il faut accepter une eschatologie, c'est-à-dire une collapsologie du système, c'est-à-dire la fin du monde. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui fonctionne très bien, a pris la place d'une grande partie de l'initiative humaine. En tout cas, l'humain ne la maîtrise plus, elle fonctionne. Tout le monde célèbre l'intelligence artificielle sans se poser de questions. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, on est bien content de la trouver quand il s'agit de faire des opérations chirurgicales, quand il y a nécessité. Mais quand même, penser aux implications, ça relève de l'autorité humaine. Illich est arrivé à l'époque où l'informatique commençait à surgir. Les ordinateurs étaient installés. Et déjà là, avec la question du cyborg, il dénonce le fait que ces techniques se réapproprient les humains. Mais vous imaginez, s'il était encore vivant, Illich, là, mais il pèterait les plombs. Hein.
Ouais. Et j'imagine pas, mais en tout cas, on va faire une petite pause. Pour le moment, pause musicale, donc on avait dit Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs, pour la deuxième chanson. C'est parti.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
De retour sur Radio Primitive avec Jean-Michel Djian, donc, qui nous parle aujourd'hui de son ouvrage Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir, aux éditions du Seuil, paru en 2020. Donc Ivan Illich, finalement, c'était un pionnier de l'écologie radicale, si on peut dire, à son époque.
Oui, on peut toujours le dire.
Voilà.
D'ailleurs, beaucoup de ses adeptes existent encore en France.
Et justement...
Patrick Livret, d'autres. Oh, André Gors, tous ces gens-là sont des personnages éloquents qui ont été les porte-parole d'Illich en France. Hein. Je pourrais en citer, mais beaucoup.
Mais est-ce qu'il y a d'autres modèles comme ce qu'il avait créé justement au Mexique, à Cuernavaca, avec ses laboratoires populaires d'échange d'idées, enfin j'appellerais pas ça université parce que lui-même n'aimait pas vraiment beaucoup le mot d'université.
Non, c'est parce que c'est un système, c'est pareil, dès qu'il y a un système, il n'est plus là.
Voilà.
Non, il n'y a pas d'équivalent, puisque même ceux... j'oublie son nom, qui était prof à Bordeaux, qui était un brillant illichien aussi, sont des gens qui sont quand même enfermés dans une institution maintenant. Donc, soit ils ont éteint les lumières, soit ils ont passé le flambeau, voilà. Donc, c'est pas dramatique. Et puis, il y avait quand même dans la perspective illichienne... l'idée de transformer, là peut-être c'est intéressant de rappeler cette histoire, la gauche était séduite par les idées d'Illich à tel point quand il y a eu le congrès de Metz en 77. Donc c'est pas très loin de chez vous, mais le congrès de Metz du Parti Socialiste... l'opposant François Mitterrand à l'époque, c'était Michel Rocard. Michel Rocard était patron du PSU et venait quitter le Parti Socialiste Unifié. Vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, mais l'influence de Michel Rocard était énorme dans la gauche, un peu ouverte, non partisane, enfin non dogmatique plutôt d'ailleurs. Et donc ça irriguait tout le système de la pensée jusqu'à rentrer dans l'appareil du Parti Socialiste par la voix de Michel Rocard en question. Le congrès arrive, Mitterrand pressent que les idées d'Illich peuvent emporter le morceau. Donc ça voulait dire une gauche beaucoup plus écologiste, beaucoup plus social-démocrate que celle qui a existé en 81. Nous sommes à 2 ans et demi des présidentielles à l'époque. Et finalement, Mitterrand, donc Rocard, propose à Mitterrand d'inviter Ivan Illich au congrès de Metz. Vous imaginez ? Alors là, si Illich venait, j'allais dire le courant C de Michel Rocard, le courant le plus novateur à l'époque, il l'emportait. Et Mitterrand, en fin politique, a compris qu'il ne fallait pas l'inviter, sinon c'était fini pour lui. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Et finalement, c'est Mitterrand qui gagne le congrès. Il emporte les élections municipales. Effectivement, avec l'Union de la gauche, il emporte le pays. à gauche en 1981. Vous vous souvenez quand même que la gauche a gagné à ce moment-là. Bon, mais ce n'est pas la gauche, c'est l'union de la gauche. Et dans l'union de la gauche, il y a le Parti communiste. Le Parti communiste, c'est un parti productiviste. Donc, il ne peut pas être Ilitchien. Il y a une confusion des genres, là. Ouais. Donc, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais la réalité, c'est que l'ilitchisme, qui aurait très bien pu être de creuser des idées de la gauche, a été battu en brèche dans un congrès socialiste. Et l'ilitchisme, c'est terminé en Suisse, c'est fini. On l'oublie parce qu'il n'est plus d'actualité. La gauche unie arrive au pouvoir, elle fait ses réformes, on peut faire ce qu'on veut, mais au fond, on est passé à côté d'un bonhomme. On est passé à côté d'Illich, qui avait les idées que la gauche n'a pas réussi à concevoir. Et c'était Rocard qui les portait.
D'accord. Et lui-même, à cette époque-là, Illich, qu'est-ce qu'il pensait justement de cette bataille politique ? Parce que c'est vrai qu'il a toujours aussi été rieur par rapport au monde politique. Enfin,
oui,
en 1999, il vous confie au Mexique. Je cite, l'avenir de la planète est bureaucratiquement confisqué par les politiques et les experts. Oui, oui. Elle n'est plus défendue par ceux qui l'habitent. Il ne faut rien attendre du pouvoir, sinon c'est cuit.
Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans le système sur laquelle vous mettez le doigt, mais c'est vrai. Illich, en fait, moins on le voyait, mieux c'était, il fallait le lire. Mais dès qu'il y avait un système qui se mettait en place autour de ces idées, et Dieu sait si la revue Esprit et le Nouvel Observateur ont largement contribué à la notoriété, même à la postérité d'Illich, dès que ces idées se confondaient dans une organisation, Illich se retirait. Donc ce système ne pouvait pas marcher très longtemps. Ce qui l'intéressait, c'était les petites cellules où discuter. D'ailleurs, il a écrit un livre que vous avez oublié de mentionner, cher Lorraine, c'est La convivialité.
On en a parlé très brièvement. Mais
La convivialité, oui. C'est un livre majeur. Ouais. Ce mot-là n'existait même pas dans la cervelle des gens à l'époque. Le mot convivialité, maintenant, il est employé normalement, mais c'était un mot rare à l'époque. Il sort un livre qui s'appelle Convivialité. Et d'ailleurs, en discutant avec le patron du Seuil, qui est mon éditeur, il me disait que ses prédécesseurs avaient failli se fâcher définitivement avec Illich, qui avait imposé le mot convivialité le livre à la sortie du livre. Et son éditeur lui explique que convivialité, mais personne ne connaît le mot, on ne va pas en vendre. Il a dit non, il faut maintenir ça, il faut défendre l'idée de la convivialité, qui, comme chacun sait maintenant, ce n'est même pas la peine d'expliquer le mot, c'est l'idée de la fraternité active, c'est tout. C'est l'idée qu'il faut créer les conditions pour que les gens puissent converser, se parler, s'aimer, se critiquer, dans une forme de pacifisme existentiel. Enfin bref, c'est du Illich craché. Mais au fond, il avait raison. La convivialité, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On est tous devant nos écrans, la preuve là en ce moment, voilà. Mais le tactile n'existe plus, ou il est contesté. S'embrasser, ça devient un gros problème, voilà. Donc lui, la convivialité, c'est l'idée que le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent. C'est trois voies, le corps, l'esprit et l'âme. Et tout ça, ça a marché ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche séparément. Donc il manque quelques dimensions à la nature humaine sur cette planète isolée dans l'univers. Et Illich était capable d'expliquer tout ça. C'était assez agréable. Il m'a expliqué quand je suis allé chez lui. Je suis resté 24 heures à Cuernavaca en 1999, deux ans avant sa mort. Je peux vous dire que je suis ressorti de là. C'est comme si j'avais sniffé un rail. Hein. C'était pareil. Hein. C'était incroyable de voir ce type qui était drogué aux idées et qui s'employait à les partager avec des gens qui n'étaient pas d'accord forcément avec lui. C'était très agréable.
Et d'ailleurs, dans la convivialité aussi, c'est le caractère émancipateur aussi qui met en avant de la société conviviale. Ce n'est pas seulement le côté lien, c'est aussi la création de richesses humaines,
C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il existe une énergie plus forte encore que l'individu, c'est le groupe.
C'est ça.
Mais le groupe, c'est une entité totalement anonyme. C'est une entité qui n'a pas d'odeur ni de saveur. Tandis que la convivialité, c'est l'exercice sentimental, affectif, de créer un groupe. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas de convivialité. Mais dès que vous trouvez... je vous donne un exemple que j'ai vécu hier soir. C'est tout simple. C'était, je suis allé voir le film sur l'histoire de Led Zeppelin. C'est pas non plus votre génération, mais c'est la mienne. Ce groupe était extraordinaire et tout le monde s'est demandé pourquoi cette musique a autant marqué les esprits. Et hier soir, il y avait que des gens de ma génération, quelques jeunes, mais c'était bourré à craquer. Et on sentait dans la salle, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ça, c'est une grande salle, on sentait que les gens étaient énergétiquement sur la même longueur d'onde. C'était les mêmes... voilà. Mais pourquoi ? Parce que le groupe même, les quatre bonhommes là, qui font le groupe de Led Zeppelin, en particulier Jimmy Page et Robert Plant, ces deux musiciens qui ne se connaissaient pas quand ils ont créé le groupe, se sont sniffés comme des clébards avant de jouer ensemble pour savoir s'ils pouvaient s'entendre. Et ils se sont aperçus très vite à quatre, les deux autres, John Bonham et John Paul Jones, sont venus se greffer dans ce groupe, qui est un groupe qu'a connu d'ailleurs Illich, et faisaient de la musique qui n'avait rien à voir avec les musiques qui ont existé avant. Et on expliquait dans un interview inédit hier soir du réalisateur, Jimmy Page, le leader du groupe, disait « Mais c'est tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'en étant ensemble, on allait créer une énergie colossale qui allait nous aider à créer de la musique. Ce n'était pas d'apprendre à jouer de la guitare, jouer de la batterie, tout ça, c'était l'idée que les instruments, grâce à l'intelligence de l'un et de l'autre, aller créer ensemble quelque chose sans qu'il y ait des conflits de pouvoir. Mmh. Et ça, c'était intéressant, parce que l'idée du conflit de pouvoir, c'est ça que conteste Illich partout, dans toute institution. Et même un groupe de rock est une institution. Mmh. Bon, donc, à un moment donné, ça ne marche pas. Mais quand les gens s'aiment un peu, ont envie de se voir, de partager, voilà, ben, ça marche. Ça a été valable pendant 8 ans avec les Beatles. Puis un jour, il s'est trouvé qu'il y a une cinquième personne qui est arrivée. Dans le groupe. Elle s'appelle Yoko Ono, mais à la marge. Et puis tout a pété. Dans le système est tombé. Voilà. Donc la convivialité, c'est l'idée de partager une fraternité active qui est génératrice d'énergie, de ressources et d'intelligence. C'est ce que vous disiez. Bah, c'est ça la convivialité. Alors maintenant, on en parle un peu moins. On parle toujours l'idée qu'on va créer des réseaux. Mais au fond, lui aussi, il avait raison. Il dit la convivialité, c'est quand même une force énergétique considérable pour faire quelque chose.
Et lui-même était inscrit dans des groupes sociaux. Mais est-ce qu'il n'était pas aussi solitaire ?
Il est doux, mais ça c'est concevable. Hein. La convivialité n'implique pas l'état plein temps avec quelqu'un.
Dans le sens où il n'avait pas forcément, vous en parliez aussi à la fin du livre, sur les amitiés d'Illich.
Oui.
Est-ce que finalement, il avait des amitiés solides ou ça restait quand même des contacts assez lointains ?
Écoutez, à la fin de sa vie, il est retourné en Allemagne où il avait quelques amitiés, justement. Et moi, je suis retourné en faisant ce travail d'enquête, je suis retourné chez les gens qu'il a connus.
Ouais.
C'est ça qui était formidable. J'ai passé des jours, des heures avec ces personnes-là et j'ai retrouvé, j'ai retrouvé des documents, des photos des 70 ans d'Illich qui étaient fêtés par ses amis. Donc lui, il n'a pas pris part à ça, mais simplement... accepté, évidemment, par amitié, parce qu'il aime l'amitié, qui est finalement le prolongement naturel de la convivialité. Mais il a accepté de venir. J'ai retrouvé des photos et surtout des textes. Dans mon livre, j'en parle. Hein, j'ai même mis un extrait du discours d'Illich pour son anniversaire. c'est un moment d'émotion, même alors moi j'y étais pas, je vois bien ce que représente pour lui ce respect, cet amour que les autres ont à son endroit, pas en tant qu'intellect, mais en tant que personne. Voilà, ce type a tout donné, il a donné à tout le monde, donc il n'est pas de bien personnel. Donc, vous voyez, cette idée de partager, de famille, c'est quelque chose qui compte. Hein.
Et c'est aussi l'hospitalité entre amis aussi qui met en avant oui. le côté, ouais. Finalement, qui après, par la suite, est devenu hospitalité. Bah,
l'hospitalité
hôpital.
Fait partie de son système.
C'est ça.
Or, l'hospitalité, aujourd'hui, elle serait battue en brèche par... elle est battue en brèche par l'idée que l'hospitalité à la Illich, elle est fondée sur la spontanéité. À l'époque, il n'y avait pas de code d'entrée pour les immeubles, il n'y avait pas de trucs de sécurité. Bon, maintenant, si, vous allez à Paris, c'est impossible d'aller spontanément chez quelqu'un. En campagne, on peut encore le faire. Mais l'hospitalité naturelle, très instinctive à la Illich, ça ne peut plus exister puisque les gens ont peur de l'autre. 3200 SDF à Paris tous les jours. Il y a 10% des gens qui proposent d'aider les gens qui sont dans la rue. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. On trouve ça normal.
C'est finalement parce que oui, voilà, on trouve ça normal, parce que justement, on en vient, on va clore l'entretien aussi là-dessus. C'est la question de l'expropriation, finalement, des services. On remet à l'État cette capacité, finalement, de faire preuve d'hospitalité et... Et c'est ce que Illich dénonce aussi dans toute son œuvre, finalement.
Ben, il dénonce ça parce que ça produit le pire, c'est la déresponsabilisation de chacun. C'est-à-dire que d'externaliser à l'État et à ses services une part de nos responsabilités crée de l'égoïsme, crée de la distanciation et puis, pour terminer, de la solitude. Alors là, on parle de vraie solitude, de tous ces gens qui, finalement, ne voient plus personne. Qu'on soit riche ou pauvre, on voit plus personne parce qu'on délègue tout. On délègue tout à des systèmes sociaux, à des systèmes bancaires, à des systèmes même de réservation. On voit plus personne dans un guichet. Quand on va à la SNCF, on prend plus son billet. On prend tout sur Internet. Donc l'idée de la solitude artificielle s'est organisée naturellement en moins de 10 ans. Donc aujourd'hui, le centre de gravité de l'activité sociale, elle est du côté de la solitude et puis du côté du collectif. Parler de convivialité là-dedans, bonjour.
Ouais, bon courage en effet. Et pour clore l'entretien, une dernière petite question. On a parlé de Rocard, qui n'est plus de ce monde, mais actuellement, est-ce que vous voyez des penseurs contemporains qui s'inscrivent justement dans la lignée de Ivan Illich, au-delà bien sûr de vos travaux personnels, mais... Oui, des penseurs contemporains.
Non, il n'y a pas l'équivalent d'Illich. Il y a des jeunes élus politiques comme Glucksmann, par exemple, qui pourraient, parce qu'ils sont dans une dynamique intellectuelle, pourraient être des héritiers, mais c'est des héritiers qui sont assez loin. Le contexte ne facilite pas aujourd'hui l'émergence d'un Illich. Alors il y a plein d'écologistes brillants, des Villani, des gens comme ça qui sont à la fois brillants et qui sont actifs. Hein. Eric Villani, il est quand même brillant. Il a du mal à s'inscrire dans le politique, mais exactement comme Illich au fond. Hein. Voilà. Donc il y en a, mais le système ne se prête pas à ça. On est dans un autre paradigme qui surgira définitivement. D'un autre modèle politique qui n'existe pas encore, mais dans lequel on est en train de s'installer.
Très bien, bien. Merci beaucoup Jean-Michel Dian pour cet entretien sur Ivan Illich, votre ouvrage sorti en 2020 aux éditions du Seuil, L'homme qui a libéré l'avenir. Et on se quitte. À très bientôt sur Radio Primitive. Merci à tous, merci Jean-Michel.
Merci à vous Lorraine.